Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série d'études sur les maladies du cœur, en parlant de la tendance à critiquer et à juger sévèrement. Jésus-Christ a dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. » Matthieu 7, versets 1 et 2. En fait, cette recommandation est, de nos jours, parmi les mieux connues et les plus approuvées de toutes les déclarations de l'Écriture. La tendance à toujours critiquer et juger sévèrement les autres est certainement une maladie spirituelle. Un problème de cœur qui fait du mal à celui qui juge et qui détruit inutilement les relations humaines. Mais tout en reconnaissant qu'il y a une sorte de jugement qui est interdit par le Seigneur, il faut remarquer que d'autres passages bibliques encouragent le jugement. Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 7 et verset 24, « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice ». Et l'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe, « Ce n'est pas mon affaire, en effet, de juger ceux qui ne sont pas chrétiens. Dieu les jugera. Mais ne devriez-vous pas juger les membres de votre communauté ? Comme le déclare l'Écriture, chassez le méchant du milieu de vous. » Il paraît donc que le mot « juger » s'emploie de plus d'une manière dans le Nouveau Testament. Afin de mieux définir la sorte de jugement que Jésus défend, l'esprit que nous voulons qualifier parmi les maladies du cœur, il serait important d'identifier les sortes de jugements qui ne sont pas défendus, qui peuvent même être une obligation. Commençons par le jugement qui s'opère dans les cours de justice. Romains 13, versets 3 et 4 dit « Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais le bien. » Et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Évidemment, quand un juge condamne celui qui viole la loi, ce juge n'a pas désobéi à la volonté de Dieu. La Bible condamne la corruption qui existe parfois dans les cours de justice. Mais quand elles font leur travail avec intégrité, elles ne sont pas en faute. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, le jugement de l'Église à l'égard des membres de l'Assemblée qui ne respectent pas les enseignements de la parole de Dieu est une autre sorte de jugement qui est acceptable devant Dieu. En 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 6, il est écrit « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. » Ce genre de jugement vise au moins deux buts. Amener, si possible, le chrétien qui pêche à se repentir afin de ne pas être perdu éternellement et préserver ou réparer la réputation de l'Église. Un peuple qui doit chercher sincèrement à vivre dans la pureté, la justice et la soumission envers Dieu. Nous sommes appelés en plus à nous prononcer sur la moralité de certaines actions, même celles commises par ceux qui ne sont pas dans l'Église. Paul dit en Éphésiens 5, versets 10 et 11, « Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Dans un autre passage, Paul parlait des péchés commis par les païens. Il cite entre autres l'idolâtrie, l'homosexualité, l'amour de l'argent, l'arrogance et le manque de loyauté et de miséricorde. Puis il dit « Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Romains 1, verset 32. Évidemment, il y a parfois un devoir de juger dans le sens de désapprouver des actes pécheurs. Enfin, il est essentiel que les auditeurs jugent dans le sens de discerner entre ce qui est vrai et faux, entre ce qui est conforme à la volonté de Dieu et ce qui est contraire à sa volonté, entre les actions qui sauvent et celles qui perdent les âmes. Paul dit à Timothée, par exemple, « Comme je te l'ai demandé en partant pour la Macédoine, reste à Éphèse. Il y a là des gens qui enseignent de fausses doctrines, et il faut que tu leur ordonnes de cesser. Dis-leur de renoncer à ces légendes et ces longues listes d'ancêtres qui ne produisent que des discussions. Elles ne servent pas le plan salutaire de Dieu que l'on connaît par la foi. » 1 Timothée 1, versets 3 et 4. Pareillement, il dit à Tite que, pour servir l'Église comme ancien, un homme doit être fermement attaché au message sûr, qui est conforme à la doctrine. Ainsi, il sera capable d'encourager les autres au moyen du véritable enseignement, et aussi de démontrer leur erreur à ceux qui s'y opposent. Car il y en a beaucoup, surtout parmi les Juifs convertis, qui sont rebelles et qui trompent les gens par leurs paroles stupides. Tite 1, verset 9 et 10. Alors, quelle sorte de jugement représente une maladie spirituelle? Quel jugement est une pratique que le Seigneur défend? Pour répondre, regardons de plus près le passage par où nous avons commencé, c'est-à-dire Matthieu 7, à partir du verset 1. Ne jugez pas les autres, afin que Dieu ne vous juge pas. Car Dieu vous jugera de la façon dont vous jugez, et il utilisera pour vous la mesure que vous employez pour les autres. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi enlever cette paille de ton œil », alors que tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Nous voyons ici que le problème n'est pas le fait de vouloir aider son frère à enlever la paille de son œil. C'est le fait qu'on est hypocrite en voulant appliquer une règle, facile et tolérante, à soi-même, et une autre règle, difficile et exigeante, à autrui. Malheureusement, nous sommes trop portés à agir de cette façon. Jésus nous montre combien il est ridicule de faire ainsi et nous rappelle que Dieu nous appliquera la règle sévère que nous avons employée avec les autres. Jacques 2, verset 13 dit que « Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. » Un autre problème est que nous jugeons parfois concernant des points où la parole du Seigneur n'a pas parlé. C'est-à-dire nous nous basons sur des conceptions humaines pour condamner les autres. Nous ne devons pas mettre nos idées personnelles à la place de la loi de Dieu. Comme Jacques dit, « Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain ?» Jacques 4, versets 11 et 12. Quand il y a lieu de juger, nous devons prendre soin de permettre à la parole de Dieu de le faire. Si elle condamne un comportement ou démontre la fausseté d'une parole, ce n'est pas nous qui jugeons. Au contraire, nous soutenons la loi de Dieu. Une troisième sorte de jugement que le Seigneur interdit est mentionnée en Jean 7, verset 24, où Jésus dit « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Parfois, nous prononçons des jugements quand nous ne nous sommes pas donné la peine de connaître les faits. Nous nous fions aux apparences. Parfois, nous faisons preuve de favoritisme dans nos jugements. Nous sommes prêts à soupçonner ou condamner quelqu'un déjà pour la simple raison qu'il est de telle race ou telle ethnie. Ou bien nous sommes prêts à excuser quelqu'un pour la simple raison qu'il est riche ou influent. Et nous espérons recevoir quelque chose de sa part. Jacques parle de cette mauvaise manière de juger. « Si tel est le cas, dit-il, Vous faites des distinctions entre vous et vous portez des jugements inspirés par de mauvaises raisons. Jacques 2, verset 4. Voici une quatrième manière d'agir quand nous avons la maladie de critiquer et de juger sévèrement. Nous attribuons facilement des motifs indignes aux actions des autres et nous donnons une interprétation défavorable, sinon sinistre, même aux actes et paroles innocents. Quand nous faisons ainsi, nous n'agissons pas selon l'amour, car 1 Corinthiens 13 nous dit que l'amour ne soupçonne point le mal. Nous semblons oublier que Dieu seul connaît le cœur des hommes. La Bible dit « Attendez que le Seigneur vienne. Il mettra en lumière ce qui est caché dans l'obscurité et révélera les intentions secrètes du cœur des hommes. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. » 1 Corinthiens 4, versets 4 et 5. Qu'est-ce qui peut nous aider à surmonter cette habitude de juger dans l'hypocrisie, de juger là où nous n'avons pas le droit de le faire, de juger trop vite et superficiellement, de juger sans miséricorde ou compassion? Il serait peut-être utile d'examiner d'abord nos propres cœurs pour savoir pourquoi nous avons cette tendance. Il peut s'agir d'un effort de détourner l'attention de ses propres péchés. Judas, en faisant semblant de se soucier des pauvres, a accusé Marie de gaspillage pour avoir mis du parfum très cher sur Jésus, quand lui-même volait l'argent de la caisse des disciples. Jean 12, versets 5 et 6. Il peut s'agir d'un effort de justifier le péché dans sa propre vie et de faire taire une conscience qui accuse. Les non-chrétiens font remarquer parfois les péchés des chrétiens et se basent dessus pour dire « Nous n'avons pas besoin du christianisme, nous valons autant que les chrétiens. » Ou le chrétien qui se trouve en faute prétend que les membres de l'Église n'ont aucun droit de l'appeler à la repentance, puisque chacun d'eux a aussi ses défauts. Il arrive souvent que l'on condamne chez les autres précisément la faute dont on est soi-même coupable. Par exemple, la personne qui maintient que l'Église manque de chaleur est souvent distante ou froide et ne fait aucun effort de causer avec les autres. Il peut s'agir d'un effort de s'exalter par la comparaison à ceux qu'on estime moins dignes que nous. Voilà ce que faisaient les pharisiens dans la parabole de Jésus en Luc 18, versets 9 à 14. Ils priaient « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont voleurs, mauvais et adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. » Il se peut que nous soyons motivés par la jalousie ou la haine. Quand un jeune homme est amoureux d'une fille, il est souvent aveugle en ce qui concerne les défauts qu'elle peut avoir. Ou encore certaines mères sont incapables d'accepter que leurs enfants soient en faute quand ils ont des problèmes avec autrui. Si l'amour est capable de nous empêcher de voir les défauts ou les péchés de ceux que nous aimons, il est probable que la haine nous fasse imaginer ou exagérer la gravité des fautes chez ceux que nous détestons. Examinons donc nos cœurs. Rappelez-vous la règle d'or que Jésus prononça en Matthieu 7, verset 12. « Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. » C'est là ce qu'ordonne la loi de Moïse et les prophètes. Dans ce cas, cela voudrait dire que la règle s'applique à tout ce que vous voulez que les hommes pensent ou jugent à votre égard. Ceci permettrait d'éliminer les critiques sans compassion et le fait d'attribuer des motifs impurs aux actes des autres. Troisièmement, il faut développer l'habitude de rechercher les bonnes qualités en d'autres personnes. Comme Paul nous conseille en Philippiens 4, verset 8, « Portez toute votre attention sur ce qui est bon et digne de louange, sur tout ce qui est vrai, respectable, juste, pur, agréable et honorable. » Finalement, quand l'autre personne est réellement en faute, essayez de vous mettre à sa place. Reconnaissez avec humilité que, dans les mêmes conditions, vous auriez peut-être commis la même sorte de faute. Cela n'excuse pas le péché, mais cela pourrait adoucir votre attitude à l'égard du pécheur. Comme Jacques le dit, nous commettons tous des erreurs, de beaucoup de manières. Jacques 3, verset 2. Il ajoute « Dieu sera sans pitié quand il jugera celui qui n'aura pas eu pitié des autres, mais la pitié triomphe du jugement. »